On a déjà commencé à s'enflammer sur le sujet là, depuis le début de l'émission qu'on a hâte de parler à Patrick Péloquin. Salut Patrick!
Salut!
Conseiller municipal, mais également professeur d'histoire.
Oui, donc, tout ça en même
temps. Tout ça, alors. Y a-tu du temps de libre? Pas
sûr. À peine.
Il vient nous voir.
Oui.
Bon, on était surpris par cette affaire-là, un changement de nom du quai numéro 2.
Oui.
Déjà, c'est peut-être une bonne idée qu'on lui donne un nom plutôt qu'un numéro.
Ouais. Oui, ben c'est ça. Mais en fait,
c'est un quai à numéro.
Ben, c'est un quai à numéro parce qu'il y avait jamais eu de statut officiel à propos du quai.
Mais le quai numéro 1, il est où?
Le quai numéro 1, c'est le quai...
Le 3?
Je sais pas.
Le quai A, en fait.
Oui, en fait, c'est le quai où est-ce que, justement, il y a la garde côtière dans le bassin, là, à côté des élévateurs. Je pense. J'ai même pas vérifié les plans. En fait, c'est quand le gouvernement fédéral a cédé le quai à la ville de Sorel-Tracy, ben sur les plans, il était écrit « quai numéro 2
». Okay.
Et là, tout le monde s'est mis à l'utiliser parce que c'était la seule référence qu'on avait, donc c'était « quai numéro 2 ». Mais ça n'a jamais été statué par la suite, comment on va l'appeler. Donc, c'était par usage qu'on utilisait « quai numéro 2 ». Et puis, là, moi, je me suis dit, ben là, maintenant que c'est rendu un parc, ben je pense que « quai numéro 2 », ça veut rien dire, dans le fond, puis il faut donner une signification à ce parc-là.
Mais est-ce que ça va s'appeler le quai ou le parc?
C'est le quai.
Le quai.
C'est le quai. Le nom, selon la résolution qu'on a votée, c'est le quai Catherine Legardeur.
Fait que là, vous êtes dit, tant qu'à avoir un traversier qui a ce nom-là, ben on va dire, on va appeler le quai en l'honneur du bateau.
Ouais, non, c'est pas en l'honneur du bateau. En l'honneur du bateau, non. en fait, c'est ça, c'est que justement,
J'espère qu'il m'a pas cru.
Une théorie qui prend l'eau, là.
J'espère qu'il a compris, là.
Ouais. Mais en fait, c'est justement parce qu'on voulait, quand même garder le lien avec le fait qu'il y a quand même un traversier qui est à côté. Mais en même temps, donner une signification historique. Parce qu'évidemment, moi, bon, c'est sûr, je suis enseignant en histoire, mais c'est une tendance. Puis c'est une tendance qui, à mon sens, est pleine de sens. C'est de se réapproprier le patrimoine, notre patrimoine, en nommant des lieux qui portent des noms de gens qui ont marqué notre histoire. Ça se fait partout au Québec, puis justement dans les endroits, je pense entre autres la ville de Lévis. La ville de Lévis, ils ont fusionné 4 villes ensemble. Puis ils se sont retrouvés avec les quatre villes avaient les mêmes noms de rues.
Ouais.
Il a fallu qu'ils changent tout ça. Alors, ils ont engagé un historien qui travaille à temps plein pour la ville. Et ils ont fait des consultations, puis ils ont nommé quelque chose. Puis il y avait aussi un boulevard là-bas qui s'appelait le boulevard de la Rive-Sud. Un des noms les plus insignifiants qui existent en termes de nom. Donc, comment s'identifier? Nous, on est de la Rive-Sud.
Ouais.
Et justement, ils ont changé ça pour le boulevard Guillaume-Couture. Les gens savaient pas c'était
qui
Guillaume.
Ça?
Mais Guillaume-Couture, ben c'est ça. Ils savaient pas c'était qui. Et bien là, ils ont réalisé que c'était un des pionniers dans l'histoire de la seigneurie du côté de Lévis.
Alors, je pensais-tu cet été, en plus?
Non, mais voilà.
Et ça, donc, c'est l'équivalent de Pierre de Sorel qui a pas de nom de rue ici.
Ben, il y a pas de nom de rue, mais quand même, Pierre de Sorel est quand même bien représenté. Par exemple, la MRC Pierre de Sorel, c'est un nom qui est utilisé ici dans la région. Mais, justement, Pierre de Sorel, évidemment, c'est le premier seigneur ici, et on en a fait grand cas. On a beaucoup de sources d'informations sur lui parce que c'était un capitaine du régiment de Carignan-Salière. Jean Talon a parlé de lui dans ses écrits. Les gens il avait une bonne réputation, mais il était pas tout seul. Puis Pierre de Sorel, il était seigneur pendant à peu près 10 ans.
OK.
Et c'est sa femme qui va prendre le relais et qui va l'accompagner pendant ces 10 ans-là, mais qui, elle, va continuer pendant 30 autres années ensuite comme seigneuresse.
En plus que lui.
Oui, plus que lui, c'est ça, effectivement. Et donc, c'est elle qui va vraiment donner ce premier élan-là à la seigneurie. Donc, le traversier, on a quelqu'un qui a participé à l'histoire, qui passe un petit peu sous le radar. Mais on s'est dit, ben pourquoi pas ça? Puis d'ailleurs, c'est ma collègue, Dominique Ouellette, qui a suggéré le nom de Catherine Legardeur. Puis c'était une excellente idée, parce que ça faisait le lien avec le traversier. Parce qu'on voulait quand même que les gens identifient c'est près du traversier, puis les gens connaissent le nom des traversiers sans nécessairement savoir qui sont ces gens-là.
Ouais,
là.
Ouais.
Alors, on a un bon combo, puis ça contribue à ça.
L'autre traversier, Lucien Lachapelle, quelqu'un qui était propriétaire de la traverse avant que ce soit le gouvernement qui s'en occupe.
Ben Lucien Lachapelle, c'est un entrepreneur de la région qui est très impliqué en politique et tout ça, mais ça, là, je pourrais en parler encore un autre une demi-heure certain.
Mais Kate, là, Catherine, là.
Oui.
Scary.
Si Pierre de Sorel, son mari, avait bonne réputation, elle, quel genre de réputation elle avait à l'époque? Parce qu'une fille qui avait un standing élevé comme ça, elle n'avait pas autant.
En fait, c'est Catherine Lagardère vient d'une famille qui avait justement un statut social élevé. Son père, donc Charles Lagardère de Tilly, c'est un Français, né en France, il immigre ici et il va se lancer dans la traite de fourrure et rapidement, il va tisser des liens avec la caste politique de Québec et il va même être nommé sur le Conseil souverain. Le Conseil souverain, là, c'est l'équivalent du Conseil des ministres, d'accord? Si j'essaie de faire un parallèle avec aujourd'hui, là. Donc, lui, il était très près du gouverneur, de l'intendant.
Du pouvoir.
C'est un ami de Frontenac et lui, il va avoir 15 enfants.
Okay.
Alors, Charles, le gardeur de Tilly, va avoir beaucoup de difficultés financières parce que des enfants, ça coûte cher. Et ça coûte cher pourquoi?
Oui, mais c'est de la richesse.
Ben, c'est de la richesse, mais l'affaire, c'est qu'il y avait beaucoup de filles.
Et comme il y avait déception.
Ben pas parce que les filles coûtent cher, mais en fait, c'est vrai.
Oui.
Ils coûtent cher les filles parce que quand on marie les filles, il faut payer une dot.
Ben oui.
Et donc, Charles, ça va lui coûter cher.
Val ne se peut plus. Elle était déjà crinquée avant que vous commenciez.
Ben, c'est ça. Donc, Charles, il va marier ses filles. Puis ce qui est un fait très intéressant, c'est qu'il va marier ses filles avec qui? Ben justement, le régiment Carignan-Salière arrive ici.
Une gang de gars.
Et c'est une richesse aussi quand même, les filles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de filles. C'est pour ça que Jean Talon va faire venir les filles du roi. Mais là, lui, il y en a. Puis en plus, elles sont nées ici. Elles sont bien... Ben, leur
habitué
père,
au climat.
Elles sont habituées au climat. Et surtout, c'est que leur père fait partie du Conseil souverain. Donc, se marier avec la fille d'un membre du Conseil souverain, ça a des intérêts.
On n'avait pas les mêmes critères que maintenant.
Tout ça amène à la commission Charbonneau.
Oui, ben voilà. Donc, Pierre de Sorel va se marier avec Catherine Lagardère. Et ce qui est intéressant, c'est que Alexandre Berthier, un autre capitaine du régiment Carignan-Salière, va se marier avec la sœur de Catherine Lagardère, Marie, et Pierre de Saint-Ours va se marier avec l'autre sœur de Catherine Lagardère, qui est Marguerite.
Ah, ben, coudonc.
On a aligné Saint-Ours, Sorel, Berthier. Alors, dans le fond, c'était un bon nom de choisir Catherine Lagardère comme le nom du traversier, parce que, dans le fond, ça faisait le lien entre les deux rives.
Uh-huh.
Fait que, c'est Catherine Lagardère, donc, elle arrive ici, ben, elle va se marier, elle va créer, dans le fond, avec Pierre de Sorel, ils vont reprendre, dans le fond, le fort Richelieu qui avait été abandonné à travers le temps, plus ou moins occupé. Il va rebâtir un fort, il va occuper le territoire, et Catherine Lagardère va en faire partie. Et quand Pierre de Sorel meurt, eh bien, là va se passer quelque chose qui est une anomalie, mais qu'il faut faire avec parce que ça prend quelqu'un pour s'en occuper. C'est-à-dire que, normalement, à cette époque, les femmes sont considérées comme des personnes mineures au sens de la loi.
Mm-hmm.
Une femme n'a pas le droit d'être propriétaire de quelque chose, tout comme un enfant. Et quand le mari meurt, eh bien là, par droit, de noblesse, parce que Pierre de Sorel, c'est quand même un noble, alors normalement, ça va à l'enfant, à l'aîné. Et l'aîné, s'il est mâle, s'il n'est pas majeur, ben c'est sa mère qui va gérer. Un peu comme les rois de France, quand les rois étaient pas majeurs, ben il y avait comme la régence de la reine-mère. Ben ici, ben c'est ce qui va se passer. Donc Catherine Lagardère va devenir seigneuresse, mais elle n'a pas d'enfant. Donc il y a personne qui peut la remplacer. Alors elle va garder ce statut-là toute sa vie. Ben, pas toute sa vie, jusqu'à la vente de la seigneurie.
Elle, est-ce que, je sais pas, pouvais-tu te remarier dans ce temps-là, ou...
Je présume qu'elle aurait pu se remarier, mais elle ne l'a pas fait, du moins si on n'a rien dans les actes notariés qui montrent qu'elle s'est remariée. Mais en même temps, c'est une indépendance, là, d'avoir, parce que si elle se remarie, là, le droit de propriété pourrait passer à son nouveau mari.
Une nouvelle belle-mère.
Ouais. Donc, là, elle a un droit, elle a quelque chose d'exceptionnel en tant que seigneuresse. De la seigneurie de Sorel. Et elle va tenter de développer la... Ça va bien aller quand même. Parce que selon les rapports qu'on a, selon les documents historiques, elle entretient bien le fort. Alors quand c'est bien entretenu, ça veut dire que quand même, il y a de l'argent qui est investi, ça veut dire que les gens se plaignent pas trop, ça va bien dans la seigneurie, mais plus ou moins bien. Pierre de Sorel, évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et ici, les terres sont sur la pointe là, de ce qui est le centre-ville actuellement. Là, les terres sont pas tellement fertiles. Les gens qui ont creusé, qui ont fait des travaux un peu partout ici, savent que c'est du sable qui est en dessous. Donc, il y a une mince couche de terre fertile, contrairement si on s'en va à l'intérieur des terres un peu plus loin. Mais à l'époque, faut être sur le bord de la rivière.
Ouais.
Et les terres sont pas fertiles. Comme les terres sont pas fertiles, on n'attire pas beaucoup de paysans. Si on n'a pas beaucoup de paysans, ben il y a moins de taxes qui sont payées. Et donc, c'est comme la même chose que... Hein, c'est,
ben, on est en train de faire un plan de développement.
Oui, ben c'est le même principe aujourd'hui. Hein. La richesse d'une ville, c'est ses citoyens. Si une ville perd des citoyens, ben elle perd de la richesse, donc c'est difficile de développer. Alors, Catherine Lagardère faisait face à ça. Et en plus, on est en pleine guerre iroquoise. C'est, les Iroquois ne cessent de remonter la rivière aux Iroquois, la rivière Richelieu, attaquent les forts qui sont situés, puis celui de Sorel est au bout, justement, c'est un fort important. Donc, aller s'installer dans une seigneurie où les terres sont peu fertiles, où il y a un risque de se faire attaquer par les Iroquois, c'est difficile d'avoir du recrutement. Donc, elle est incapable de rembourser le prêt que Pierre de Sorel avait contracté au départ, puis elle va devoir s'endetter. En plus, les revenus des nobles étaient souvent liés à des pensions dues au mérite qu'ils avaient accompli dans leur vie. Donc, un militaire pouvait espérer une rente importante, puis il faisait valoir auprès du roi, j'ai accompli telle chose, telle chose, telle chose. Pour Catherine Lagardère, là, reconnaître son statut de veuve de quelqu'un qui a fait quelque chose, c'est difficile. Donc, pas de revenus du côté de l'État, pas de paysans, des guerres, c'est difficile. Et là, Catherine va devoir vendre, en fait, mettre sa seigneurie aux enchères pour rembourser les dettes.
C'est là que le marquis de Tracy arrive ou non?
Non, le marquis de Tracy, non.
Chercher un punch.
Non, mais c'est Claude de Ramsay.
Ah oui, c'est vrai, oui.
C'est Claude de Ramsay qui va acheter la seigneurie, mais qui va pas vraiment l'occuper encore. Donc, Catherine Lagardère va demeurer seigneuresse pendant une dizaine d'années encore après la mise aux enchères. Et là, en 1713, c'est là que Claude de Ramsay dit « Bon, c'est terminé, je prends possession de la seigneurie ». Mais elle va rester dans la seigneurie quand même.
Okay.
Mais Claude Ramsay, lui, est occupé. Lui, c'est un gouverneur, là, puis c'est un commandant. Il est jamais ici. Il y a un agent seigneurial. Donc, les gens, quand ils ont des problèmes, vers qui ils se tournent? Vers Catherine Lagardère. Et là, même que Claude Ramsay va demander à deux reprises à ce que Catherine Lagardère quitte la seigneurie parce que c'était vraiment rendu un problème. Parce que Catherine s'occupait de la seigneurie, mais Ramsay voulait être reconnu comme le seigneur. Mais Catherine Lagardère va quand même demeurer ici, puis elle va mourir une vingtaine d'années plus tard. Toujours ici. Elle est enterrée ici. On pourrait même faire des recherches. On pourrait la trouver, mais on ne sait pas.
On ne sait pas où encore.
Eh bien, on pourrait parler longtemps parce que c'est super intéressant.
Puis, on pourrait.
J'ai une nouvelle héroïne.
Oui!
Ah ouais.
J'en connaissais pas beaucoup. Je savais c'était qui un peu, mais pas autant que ça. Bon choix de nom pour le quai. Hein.
Effectivement. Moi qui suis quand même assez intéressé par la chose historique, après Veuve de Pierre de Sorel,
c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Puis quand même, Louise Pelletier a fait des bonnes recherches là-dessus. Mathieu Bonbrien aussi en a fait des recherches. Il y a beaucoup de choses à trouver, mais on en a d'autres femmes qui ont fait des choses. Louise de Ramsay. Je donne un nom comme ça, puis on fera des recherches plus tard.
Ah, on peut t'entendre aussi, Patrick, dans nos chroniques historiques.
Oui, bien sûr.
Sur nos ondes. Patrick Belloquin, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. Ouais.